Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous. À la question « Quel est un bon début de polar ?», l'écrivain américain John D. MacDonald aurait répondu « Un type se réveille dans une chambre inconnue, auprès d'une belle jeune femme inconnue, mais morte, étranglée. Au même moment, on cogne à la porte et il entend « Police, ouvrez !» Fermez les guillemets. Eh bien, notre invité aujourd'hui a pris au pied de la lettre ce mot d'auteur pour commencer son nouveau roman noir. Il faut dire que c'est un genre qu'il connaît très bien, comme lecteur, comme journaliste, traducteur, scénariste et comme éditeur, puisqu'il a été le patron de la série noire et d'autres collections par la suite, sans oublier ses collaborations à divers festivals littéraires. Bonjour Patrick Reynal.
Bonjour.
Vous venez de publier « L'âge de la guerre » aux éditions Albin Michel, où l'on retrouve votre protagoniste Philippe Clerc, dont on avait fait connaissance dans « Fenêtres sur femmes », un assureur qui vit à Nice, enfin à la retraite maintenant, il a 75 ans. Et donc en effet, comme je viens de le dire, il se retrouve au début dans un lit tout nu, avec à ses côtés une jeune femme tout aussi dévêtue, dont pourtant il ne se souvient pas et qui est bien trépassée. Et là arrivent les policiers. Est-ce que vous avez voulu en effet relever le défi de MacDonald et voir quelle histoire pouvait être racontée à partir de ce postulat ?
Un peu. C'est-à-dire qu'à force de, dans les conférences ou dans les cours que je donne à l'association Les Mots, je prends souvent cet exemple parce que, même s'il est un peu apocryphe, même s'il est pas vrai, il me semble que c'est ça. Mais j'ai l'impression que je n'arrive plus à retrouver le titre, que MacDonald lui-même en a écrit un qui commençait comme ça. Mais il en a tellement écrit que j'arrive pas à retrouver. Je m'étais dit oui, bah après tout, pourquoi pas, on va essayer. Je voulais quand même un peu le modifier, mais on va essayer, oui, parce que, on sait de façon certaine qu'on va raconter une histoire de complot, de piège, de à moins que le type l'ait vraiment fait, mais alors ça c'est autre chose. Voilà, donc oui, c'est un petit peu ça.
Donc ça veut dire,
défi de faire.
Ça veut dire qu'il y a une notion de jeu aussi pour vous dans l'écriture, voire de jeu oulipien dont le principe est de se donner des contraintes d'écriture.
Oui, je l'ai fait pas mal. Je l'ai surtout fait dans Retour au Noir, tous les chapitres commencent par la phrase du chapitre correspondant de Chandler, The Long Goodbye. Mais là, il y avait le côté oulipien, et il y avait aussi une deuxième chose qui se rajoutait. C'est-à-dire que j'avais parallèlement envie de raconter l'histoire d'un type de 75 ans, voire plus, mais il me fallait que je reste 75 ans, il fallait pas quand même qu'il soit trop décati. Et par rapport à ça, c'est justement lorsque vous trouvez dans une situation pareille, si vous avez 40 ans, que vous êtes tout beau, tout jeune et tout, vous vous dites, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand même, mais il restera toujours au fond de votre tête, après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai peut-être tué.
Un doute.
Alors que lui, il a pas de doute du tout, parce que ça fait longtemps que, comme il dit, que sa libido et lui ont entamé des pourparlers de cessez-le-feu, et donc il comprend pas du tout pourquoi il aurait risqué de se rendre totalement ridicule en montant dans le lit d'une très jeune femme comme ça, alors qu'il sait très bien qu'il ça fait longtemps qu'il peut plus, voilà. Et donc il a ce doute qui dit, mais attends, là je me suis fait avoir, je peux pas, même sous, je serais ridicule, pourquoi j'aurais pris volontairement le parti d'être ridicule?
Alors ce jeu, il est présent d'ailleurs tout au long de la narration avec vous, Patrick Reynal, parce que quand Claire est arrêtée pour meurtre, puisqu'évidemment c'est le premier suspect, il se retrouve face à un commissaire qui s'appelle non seulement Maigret, mais mieux Jules Maigret, comme le personnage de Simenon. Est-ce que derrière la référence humoristique, il y a aussi un clin d'œil à un écrivain, une œuvre que vous aimez?
Voilà, évidemment, il y a un clin d'œil à Simenon et à Maigret. Mais c'est un personnage que j'avais déjà employé dans une nouvelle pour Le Monde. Et c'est un type qui s'appelle Maigret et que son père avait jugé rigolo de prénommer Jules. Alors le pauvre se trimballe ce nom Jules Maigret toute son adolescence et il devient flic, forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il est un peu obligé.
Il est un peu obligé. Donc j'ai repris un de mes personnages.
Et en même temps, votre panthéon à vous, Patrick Reynal, est plutôt américain. James Crumley, Jim Harrison et bien d'autres.
C'est vrai, mais il est américain sur l'ensemble du roman. C'est-à-dire que je trouve que le roman américain a apporté, quand on a commencé à le connaître, hein, c'est-à-dire qu'un peu avant qu'on a commencé à en lire, mais personnellement, quand j'ai commencé à en lire, aussi bien des polars qu'après, avant, que Steinbeck, que Selby Foote, que en fait, ça a apporté un formidable souffle au roman français. Et ce souffle est présent maintenant. C'est-à-dire, je pense que ça a insufflé une nouvelle jeunesse au roman français des années 50-60. Et quand on était jeune, mais qu'on lisait à la fois des romans français ou des romans du programme, puisqu'on était en lettres, et qu'on lisait à côté la littérature américaine, nouvelle ou pas, c'était foudroyant. Il y avait une liberté, il y avait ces grands espaces, surtout. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on écrivait, et tout ce que les écrivains français étaient forcément, je parle pas de Kessel ou d'autres, étaient forcément un peu restreints, un peu trois pièces cuisine, un peu alcôve, parce que ce wildness, ces grands espaces, on les connaissait pas. Et c'est quand j'ai fait mon premier grand voyage aux États-Unis dans l'Ouest que j'ai dit ah, je comprends.
Ouais, dans le Montana.
Dans le Montana, dans le Nouveau-Mexique, tout ça. Et là, j'ai dit ah, je comprends. Je comprends ce qui nous manque. Et après, dans d'autres, j'ai retrouvé la même chose, par exemple, dans le grand roman russe, dans le grand roman. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre les civilisations, les anciennes civilisations comme l'Angleterre, la France, l'Italie, et qui bâtissent leur littérature dans un petit endroit, en plus un endroit balisé par les universités depuis je sais pas combien de temps, balisé par les critiques, et cette littérature qui explose, qui a explosé avec derrière Kerwood, Jack London, enfin tout, dans cette immensité.
Et en même temps, il y avait quand même Georges Simenon qui pouvait tenir la dragée haute à ces grands auteurs.
Ah, bien entendu, mais Simenon, c'est un génie. C'est-à-dire que 365 bouquins dans je sais pas combien de chefs-d'œuvre, il y a une quinzaine de bouquins qu'on appelle les romans américains où il est allé là-bas, se confronter là-bas très tôt, et il a fait des choses tout à fait égales aux Américains. Non, mais Simenon. Voilà, il y en a qu'on met Simenon, on met Céline, il y a quelques génies. Simenon, oui, mais parce que Simenon, il y en a qu'un hein, par siècle.
Donc, petit clin d'œil à Simenon et on revient à votre roman Patrick Reynal avec Philippe Clerc, qui donc se retrouve en cellule le temps de l'enquête. Ce qui lui rappelle aussi sa jeunesse, parce qu'il dit qu'il s'est fait arrêter deux fois. Là, c'était pour des raisons de militantisme politique. Et vous êtes aussi passé par la casse-prison, Patrick Reynal ?
Un mois.
Il y a longtemps ?
En 69.
Comme lui, donc.
Il y a un moment.
Et pourquoi ? Parce que vous manifestiez ?
Pour, je me rappelle plus quel était le libellé de la mise en examen, mais c'était quelque chose comme ça. Oui, on avait dû. Je crois que c'était mise destruction de véhicules appartenant à autrui. Je crois qu'on avait attaqué des fachos avec des cocktails Molotov et on avait brûlé une de leurs voitures.
Ah oui.
Et c'était pas moi.
Ah mince.
Mais c'était à l'époque. De toute façon, ils cherchaient à me coincer. On était deux ou trois qui cherchaient absolument à coincer parce qu'on avait, ça faisait deux, trois mois qu'on mettait un tel barouf que, ils cherchaient à coincer les meneurs.
Voilà. Vous étiez anarchiste?
Non, j'étais maoïste.
Ah, c'est quoi la différence?
Vous êtes sûr que je peux parvenir à une autre
fois? Oui, nous
alors,
faudrait
c'est
deux
une heures. Bonne, c'est une bonne question d'ailleurs. Non, un maoïste, en principe, c'est un communiste pur et jus puisque c'était les communistes qui disaient que la Russie n'était plus communiste. Mais en l'espèce, c'est pas une mauvaise question du tout parce que le maoïsme tel qu'on le pratiquait un peu à l'époque, surtout en ce qui me concerne et idéologiquement, se teintait un peu d'anarchisme. On était quand même un peu voilà.
Et précisément, la politique est très présente dans cette fiction, comme souvent de toute façon, hein, puisqu'on va se rendre compte qu'à la veille des élections municipales, votre protagoniste a sans doute été piégé justement pour devenir une pièce maîtresse dans l'opposition entre les deux candidats. Vous suivez la politique à Nice de très près, Patrick Reynal ?
Ah oui, je suis la politique de très très près partout.
Mais à Nice en particulier, parce que c'est une ville où vous avez vécu.
Oui, voilà. Et puis, je les connais. C'est-à-dire, je connais Estrosi, je les connais. Je suis arrivé là-bas, j'avais 14 ans. J'en ai 75, oui, à peu près. Donc, je connais beaucoup de gens qui y participent. Et j'ai encore des amis, j'y vais. Voilà, oui, je suis de très près.
Et quand vous dites que vous connaissez Estrosi, il a lu L'âge de guerre? Pas encore, peut-être?
Je sais pas.
Qu'est-ce qu'il en penserait? Parce que vous faites quand même un portrait un peu...
Je ne nomme pas.
Non, vous ne nommez pas. Mais ce que vous dites de la scène niçoise, vous passez un peu tout le monde au vitriol, hein, les avocats, les juges,
oui.
Les malfrats, les flics...
C'est vrai, mais comment ça a commencé, Nice? Quand j'ai converti mon envie, et réalisé surtout mon envie d'écrire des livres en faisant un premier polar, je m'étais dit, il me faut une ville. Et comme j'étais très, très, très attaché à Chandler, je disais, il me faudrait une ville au bord de la mer, avec des palmiers, des gens riches, et une partie de la ville très pauvre. Il n'y en avait qu'une qui correspondait à ça, et coup de bol, c'était la mienne. Donc j'ai commencé à écrire des horreurs sur Nice. Mais c'est surtout, c'est Nice comme archétype de la ville forcément corrompue. Forcément corrompue parce que, vous savez, pour corrompre, il faut de l'argent. Nice, il y a eu, on la connaît, il y a eu, quand j'étais petit, enfin quand j'avais 15 ans, il y avait toutes les bandes de gangsters, les Lyonnais, les Grenoblois, les Marseillais, tout. Ensuite, ça a été la mafia qui s'est installée à Nice, on a eu l'histoire des casinos. Maintenant, il y a pratiquement plus de mafia, c'est les Russes. Quand vous allez dans le port de Nice, vous avez une théorie, une noria de yachts absolument magnifiques, énormes, qui appartiennent tous à des Russes. Donc, il n'y a pas que moi qui vois Nice comme ça. C'est, elle est comme ça. Donc, mes personnages sont des personnages de cette ville imaginaire. Parce qu'elle est quand même imaginaire. C'est une ville de fiction, mais je ne peux pas faire la même chose avec Romorantin.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de soleil, ni
de
palmiers.
Parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas les palmiers, il n'y a pas d'argent. Ça ne marcherait pas. Encore que j'ai eu la surprise de ma vie lorsque je suis allé pour un grand reportage à 21 sur le polar nordique et que je suis allé dans la région d'origine de Menkel, enfin la région où se passent ces romans. Où,
la série Wallander.
Voilà, la série Wallander, vous avez tous en tête, il y a tout. Des tueurs en série, des fanatiques, des sectes et tout. Et quand je suis arrivé, que j'ai commencé à regarder et parler aux gens, aux commerçants, ils me disent « Ah, vous êtes venu pour voir les crimes ?» Et alors, ils m'ont raconté qu'il n'y avait que ceux de Wallander, que c'était un endroit, c'est très joli d'ailleurs. Très
oui,
vert,
c'est une petite
très...
bourgade, en fait, très bourgade, tranquille.
Très tranquille, très jolie, très, ouais. Très verte, où, voilà, il n'y a pas de crime. Mais Wallander n'a pas, et comme il s'appelle, Menkel, n'a pas la vocation de réalisme politique que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, Wallander, il suffit qu'il y ait un type qui ait une maison et qu'il soit dans le coin et qu'il soit tapé, fou, enfin bon, ouais. Pour monter.
Alors qu'ici, c'est vrai, chez vous, Patrick Reyna, il y a toujours cette dimension politique et voire un peu plus large. Par exemple, ici, chacun de vos personnages ont un lien avec la franc-maçonnerie. Vous êtes encore un des rares à parler de cette, comment dire, cette assemblée secrète où se réunissent des gens de tous milieux qui se cooptent, qui se retrouvent autour de cérémonies, de rituels, et puis surtout qui s'entraident. Hein.
Voilà. Alors pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie est très très importante à Nice. Toutes les obédiences y sont représentées. Et il y a eu quelques scandales avec la franc-maçonnerie. Moi, j'en avais parlé quand j'avais interviewé le procureur de Nice, Montgolfier. Et qui, au moment où je lui parlais, avait des démêlés avec la franc-maçonnerie. Et ce qui était drôle, c'est qu'il avait des démêlés avec l'obédience dans laquelle mon père était. Mon père était franc-maçon. Il avait des obédiences. Donc tout ça, c'est médecin était maçon. Enfin, tout ça, c'est
médecin
très important.
Le maire.
Médecin, pardon. oui, c'est tellement longtemps qu'il a disparu. C'est que... Voilà, donc c'est aussi pour les Niçois vont s'y reconnaître, si vous voulez, vont s'y repérer.
Et pour parfaire le décor, le grand amour de Claire réapparaît dans sa vie. Une détective privée vient lui donner un coup de main. Donc on a tous les ingrédients d'un bon polar, mais à la sauce rénale. Parce que, en fait, moi j'ai l'impression que ce qui vous motive ici... Le plus, c'est certainement le style, non? L'humour, ah oui. Les vacheries, l'autodérision.
Ça, j'aime beaucoup. Je suis un... Alors, je ne sais pas s'il est mauvais ou bon, mais c'est vrai que je suis un styliste. C'est-à-dire que je fais très attention quand j'écris. À vrai dire, ce qui m'importait, c'est d'écrire un... Quand on me demandait ce que je faisais, là, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que tu écris? Et je dis, j'écris un roman sur l'impuissance, la vieillesse et la mort. Alors, je voyais évidemment les gens en face de moi... devenir un peu palo, et je dis, mais rassurez-vous, ce sera rédigé de façon très guillerette. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que c'est un roman qui, au fond, est très noir, puisque, bon, sans dévoiler la fin, ça se termine mal pour lui.
Oui, de façon un peu radicale, en effet.
Un peu radicale, mais tous les gens qui m'interviewent me disent, qu'est-ce que j'ai ri.
Oui.
Et donc voilà, j'ai réussi mon coup.
Voilà, c'est du roman noir, un petit peu en marge. Un peu comme la chanson de Lou Reed, Walk on the White Side.
Ah oui, ben voilà. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Patrick Reynal, avec qui nous feuilletons son nouveau roman, L'âge de la guerre, paru chez Albin Michel. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce titre qui oscille un peu entre la hache de guerre, l'âge de pierre? C'est quoi l'âge de la guerre?
Alors, je ne trouvais pas de titre, comme toujours. Et j'avais commencé par l'âge de la paix, parce que la vieillesse, c'est l'âge de la paix. Et puis, j'ai eu des scrupules. Je me souvenais d'avoir vu un très beau film à Cannes, il y a très longtemps, qui s'appelait « L'état de la pace », donc « L'âge de la paix ». J'ai eu l'impression qu'il existait un titre semblable. Je voulais pas copier. Et tout le monde m'a dit « Ah non, c'est mieux, l'âge de la guerre ». Alors, l'âge de la guerre, c'est tout simplement, ça désigne un type qui foutait une paix royale à tout le monde, qui, depuis 20 ans, déçu de tout, qui avait perdu son seul amour, perdu ses illusions, perdu ses copains, et gardait juste une rogne terrible. Il aime rien, sauf regarder les séries à la télé et dévorer sa bibliothèque. Donc, il aime rien, il attend simplement la mort qu'il ne craint pas du tout, parce que c'est un authentique matérialiste, il sait qu'il n'y a rien après, et que par conséquent, bon, bah, il n'y a qu'à attendre, il attend. Et là, quelqu'un vient le faire chier, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui vient le coincer dans un truc terrible à 75 ans. Il se dit bon. Et là, il se met en colère, quoi. C'est-à-dire qu'il déclare la guerre.
Et remettre en question beaucoup de choses auxquelles il croyait. Par exemple, une amitié de 50 ans, 60 ans avec deux hommes qui volent un peu en éclats.
Un parce qu'on croit qu'il est mort et l'autre parce qu'il l'a un peu trahi. Enfin, voilà. Disons, il a trahi les idéaux.
Ouais.
Il a pas trahi Claire. Mais bon, c'est plus ce qu'il était. Et c'est les trois personnages de Fenêtre sur femme.
Exactement.
Ce qui est l'autre motivation que j'avais, c'est-à-dire que après ça, j'ai dit, et si j'allais voir ce que sont devenus ces trois
amis.
Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qu'ils sont devenus.
C'est vrai. On l'a dit, donc ce narrateur, Philippe Clerc, a quelques points communs avec vous, Patrick Reynal, l'âge, 75 ans, Nice, où vous avez vécu, même assureur, vous l'avez été tout jeuneau. Et puis, pour vous connaître un tout petit peu, parfois, il a ce côté bougon que vous aussi, vous pouvez avoir. Et il dit, je suis né en colère. Et vous, Patrick Reynal?
Un peu.
Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut naître en colère?
Je ne sais pas. Alors, il y a aussi l'histoire de ma famille et de ma jeunesse et tout, bon, qui a pas arrangé les choses. Mais l'ensemble a fait que, effectivement, j'ai eu l'impression d'avoir été en colère toute ma vie. Et d'avoir beaucoup de mal à réagir calmement. Oui, vous dites, je suis un peu réputé pour mes colères, je suis un peu réputé pour envoyer balader les gens quand ça va pas. Et puis, c'est une vraie psychanalyse que vous me faites, là. Et puis, il y a aussi cette... c'est un personnage... j'aime bien ces personnages. C'est un personnage qui s'aime pas. Voilà. Et moi, je m'aime pas beaucoup non plus. Donc, c'est un personnage qui réagit en fonction de... Il essaye de pas se faire voir. Il essaye de se faire... il s'aime pas. C'est-à-dire que c'est pas la peine non plus de le prendre par le côté caresse et chocolat. Coque-moi, chocolat.
Mais ou whisky, non, voilà. Peut-être. Ou c'est... vodka. Non, lui, il carbure à la vodka.
Enfin, il tempérait parce que... Oui. Il se remet à boire là à l'occasion du roman, mais oui. C'était arrêté. Voilà, c'est ce personnage un petit peu écorché qui repart en guerre. Vous savez, c'est comme si vous allez réveiller un ours qui hiberne, si vous allez lui gratouiller les pieds, les trucs. Même si c'est un gentil ours au début, ça va mal se passer.
Alors, vous avez fait long feu dans les assurances et vous êtes devenu journaliste, écrivain, puis éditeur à la Série Noire, on l'a dit, puis dans d'autres maisons. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être soi-même auteur de polar quand on publie des auteurs de polar?
C'est une très très bonne question. Et elle joue aussi bien sur dans n'importe quel directeur de collection qui dirige des polars ou d'autres livres ou d'autres romans. Ça ne marche que sur le roman. C'est pas une très bonne idée, en fait. C'est d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a assez peu parce que il faut avoir une certaine force d'esprit. Il faut d'abord avoir été un gros lecteur avant d'avoir été quoi que ce soit d'autre. Or, j'ai été un très gros lecteur depuis tout petit. Ma mère m'a appris à l'écrire, à lire très tôt, et j'ai grandi un peu solitaire dans une grande bibliothèque. Donc, de toute façon, je pouvais pas m'arrêter de lire parce que je me mettais à écrire. Donc. Parce que la plupart des auteurs, des gens que je respecte vachement bien et tout, se disent « Ah ben non, je lis pas beaucoup en ce moment parce que je suis en train d'écrire. » Et c'est vrai que, on est inspiré ou on se compare.
Influencé
et tout. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je dois dire que celui-là, j'ai eu plus de facilité à l'écrire parce que justement, j'en publiais pas d'autres. Mais en 95... J'ai publié un bouquin que j'aime bien en plus, qui s'appelle Né de fils inconnu, en même temps que je publiais Tchourmo de Jean-Claude Izzo, qui était un pote en plus. Et là, ça a été très compliqué. D'ailleurs, le Tchourmo a explosé et Né de fils inconnu n'a pas explosé. Et là, il y a eu vraiment des tensions par rapport à mon auteur, à tout, des tensions internes. C'était un peu compliqué, oui.
Alors justement, c'est une question que je me posais parce que il y a 30-40 ans, on avait l'impression qu'il y avait une vraie bande d'auteurs de polar en France. Vous, Jean-Bernard Puy, Didier Deninx, Jean-Claude Izzo, Marc Villard, et j'en oublie. Hein. Est-ce que ça existe encore, cet esprit de bande dans la nouvelle génération, selon vous, Patrick Reynal? Parce que je sais que vous continuez de lire et d'être très attentif à tout ce qui se publie.
Parmi les gens que vous citez, il y en a qui sont morts, mais les autres sont toujours copains. Hein. C'est-à-dire que ouais, la bande est restée.
Izzo est mort, c'est tout.
Izzo est mort. Ah si, il y en a d'autres quand même.
Oui, mais pas parmi ceux que j'ai cités. Non, j'en ai beaucoup oublié, en effet.
Et je ne sais pas sur les autres. J'ai vraiment... vous savez, j'ai quitté la Série Noire, même, j'ai quitté Fayard pour prendre la dernière collection que j'ai dirigée. Vous avez 62, 63 ans, j'en ai 74, 75. J'ai complètement coupé, c'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai plus cherché les jeunes auteurs. J'ai beaucoup lu ce que j'avais en retard dans ma bibliothèque, j'ai lu tout Dickens, j'ai lu tous ces trucs que j'avais pas eu le temps de lire. Parce que, donc, Conrad, j'ai rattrapé. Et j'ai plus vraiment beaucoup fréquenté, parce que j'ai aussi mis un bout de temps avant de réécrire dans cette veine. J'ai eu des problèmes familiaux et tout, ce qui fait que j'ai coupé un petit peu du milieu, un petit peu. Et comme je l'avais tellement lu, et encore, vous avez eu l'occasion de lire que ceux que j'avais choisis, mais je lisais aussi tous ceux qui n'ont pas été choisis, que j'ai coupé, là, j'ai arrêté.
Et quand vous lisez aujourd'hui Patrick Reynal, vous lisez comme un lecteur ou il y a quand même l'éditeur qui regarde de près ce qu'il est
quand
en train de lire.
Quand je lis, bah là en ce moment je lis Orwell. Alors il y a pas l'éditeur, il se fait tout petit. Non, et l'auteur aussi. Non, oui. Quand je lis des nouveautés, je peux pas m'empêcher de dire ça. J'aurais coupé. Ça c'est mal foutu. Je crois que c'est vous l'avez pour la vie ça.
Et c'est quoi la définition d'un bon polar selon Patrick Reynal?
C'est pas une question de définition. On va repartir sur ce que vous disiez au début. C'est le style. Et la construction.
C'est une bonne définition, ça, déjà.
Voilà, style et construction. Quelquefois, le style n'y est pas du tout. Là, si le style n'y est pas du tout, je vous dis tout de suite, j'arrête. Je peux pas lire un bouquin mal écrit. Et alors, sur la construction, je lis quand même si le style me plaît. Mais je peux pas m'empêcher de dire, mais non, ça, il fallait pas le dire là. Ce que je dis très souvent, ça, c'est la plaie des énormes romans, c'est ça, j'aurais coupé. C'est pas obligé de faire un énorme pavé. Et c'est la mode, là. On fait des énormes pavés sur lesquels on peut couper facile 20 ou 30%. Et là, je suis gentil. Donc, j'en ai fait un court pour pas qu'on me dise ça. Il est court, celui-là.
Ouais. C'est vrai, 260 pages?
Oui,
ouais.
Même pas.
Et en plus, qui se lisent vraiment d'une traite. Vous avez dit, Patrick Reynal, il y a quelques temps, que le roman noir était l'avenir du roman français. C'est toujours le cas, selon vous?
Le roman noir est l'avenir de la fiction, j'avais dit, c'est même.
Ouais.
Bien oui, regardez les tables des libraires. C'est-à-dire, au moment où j'ai dit ça, il y avait quoi sur les tables des libraires? Quelques grands formats, les grands formats des collections noires. Et maintenant, regardez, il y a tout. Toute la littérature qui sort maintenant est quasiment noire.
Mais pas forcément sous jaquette d'éditeur de romans noirs.
Et pas forcément polar, mais elle est la montée du polar. C'est embêtant parce que j'ai l'air de me mettre dedans, mais le talent des gens qui ont après 68, qui ont poussé cette littérature, il y a Morgiève, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, bon, a fini par colorer toute la littérature française, parce que ça, j'avais écrit ça dans un article que j'avais fait pour la NRF, parce que la seule supériorité du noir sur le blanc, c'est qu'il déteint. Voilà. Et on a déteint.
Et c'est aussi à l'image de la société.
C'est à l'image de la société.
Qui va de moins en moins bien. Et enfin, il y a plus de dysfonctionnements qui fait matière de littérature.
Et c'est à l'image de la littérature mondiale, hein, tout ce qui nous arrive. Et je crois que c'est vous un peu. C'est la presse s'est emparée du polar. A fait systématiquement des papiers sur les auteurs, sur les bouquins et tout. Ça a dû piquer les autres auteurs, et le monde a fait que c'est de plus en plus difficile d'écrire que tout va bien, c'est de plus en plus difficile de s'en rester au trio, le mari, l'amant, la femme, et donc moi je l'ai vu à un moment, on l'a tous vu entre nous, on dit regarde, et les tables des libraires, qu'on regardait presque pas avant, et là il y a des romans qu'on prend sans problème, mais c'est mondial hein.
Votre roman se finit de façon un peu radicale. Bon, c'est pas un point final pour autant, Patrick Reynal.
Pour le héros, si.
Mais pour vous, comme écrivain.
Ah non, pourquoi? Ah non, je suis en train d'écrire un truc là, pas du tout, c'est pas du tout ça.
Bon, vous êtes reparti pour de nouvelles aventures.
Oui, je suis reparti. Non, c'est pas du tout ça. Je suis pas là. Ah non. Non,
mais c'est pas si compliqué alors d'avoir 75 ans.
C'est très simple. C'est très simple à part l'arthrose, voilà. Si je pouvais plus avoir d'arthrose, je serais très content. Non, oui, bien sûr. En plus, le confinement me ravit. J'écris tous les jours. Qu'est-ce que je voulais que je fasse d'autre?
Ben voilà, un homme heureux.
Non, tout va bien.
Merci Patrick Reynal.
Ah ben, merci à vous.
J'appelle le titre de ce nouveau roman, L'âge de la guerre, publié aux éditions Alma Michel.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Avec Macan.